Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment difficile, la pédocriminalité en France.
Oui, un sujet lourd, nécessaire à aborder.
On s'appuie sur plusieurs sources, hein, des documentaires qui ont fait parler, comme 1 sur 5 de Carl Zero, Les Survivantes, aussi la série de Pierre Barnérias, et puis des articles qui analysent tout ça.
Des documents assez percutants, en effet.
L'idée, c'est d'essayer de comprendre ensemble l'ampleur du phénomène, les failles du système qui sont souvent dénoncées, et puis aussi le combat des victimes qu'on voit émerger dans ces documents.
Exactement, décortiquer un peu tout ça.
Alors, le point de départ, et c'est vrai que c'est ce qui marque tout de suite, c'est ce chiffre choc. 1 enfant sur 5. 20% des enfants en Europe victimes de violences sexuelles. C'est une synthèse du Conseil de l'Europe qui date un peu, 2016, mais quand même.
Mais, et ça donne une échelle effrayante. Si on le transpose à la France, ça pourrait concerner potentiellement plus de 10 millions de personnes. C'est vertigineux.
Et l'impact de ces documentaires, justement, 1 sur 5 a eu beaucoup de vues très vite sur Internet, mais...
Oui, un fort écho citoyen, mais médiatiquement, politiquement, au début, c'était plus compliqué. Moins de reprises.
D'accord.
Par contre, des œuvres comme Les Survivantes, ça a vraiment aidé, semble-t-il, à libérer une parole qui était vraiment enfouie.
Mais cette parole, une fois qu'elle sort, elle rencontre des murs. C'est ça que montrent les sources.
C'est ça. D'énormes obstacles. Et les institutions sont souvent pointées du doigt. La justice en premier lieu.
Pourquoi c'est si compliqué pour les victimes d'obtenir justice? Alors, qu'est-ce qui ressort?
Il y a plusieurs choses. D'abord, l'ombre de l'affaire Outreau plane toujours un peu. Ça a pu décrédibiliser la parole de l'enfant, même si, rappelons-le, 12 victimes ont été reconnues dans cette affaire.
C'est vrai.
Ensuite, les sources insistent sur le nombre très élevé de classements sans suite. Certains chiffres parlent de 80% des plaintes pour viol sur mineurs.
80%? C'est énorme.
Oui. Ça s'explique en partie par la difficulté de la preuve matérielle surtout. Il y a rarement des traces physiques évidentes, surtout longtemps après. Et puis, il y a ce phénomène terrible, l'amnésie traumatique. C'est un mécanisme de protection du cerveau, mais...
Mais ça empêche de témoigner clairement.
Voilà. Ça touche beaucoup de victimes, on parle de 40 à 60%, et ça pose un problème majeur avec les délais de prescription, c'est un cercle vicieux. Les sources citent des cas, comme ce père qui obtient la garde alors qu'il y avait eu 14 signalements médicaux contre lui. C'est un exemple qui est donné comme emblématique de ces failles.
C'est glaçant, oui. Et l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, elle est aussi dans le viseur.
Très critiquée aussi, oui. Et là, il y a un paradoxe qui est souvent soulevé. D'un côté, un budget colossal. On parle de 9 milliards d'euros.
9 milliards.
Et de l'autre, un système qui est décrit comme défaillant par beaucoup. Des placements parfois jugés abusifs, qui coupent les liens familiaux, et surtout un avenir très sombre pour beaucoup de jeunes qui sortent de l'ASE.
C'est-à-dire?
Bien, les chiffres donnés sont frappants. 70% sortiraient sans diplôme, et une proportion énorme des jeunes SDF, entre 18 et 25 ans, seraient d'anciens enfants placés. Près de la moitié, selon certaines estimations.
Et Carl Zero va encore plus loin dans son enquête. Il parle de prostitution de mineurs placés.
Oui, c'est l'accusation la plus grave, sans doute. Il évoque des milliers de jeunes, peut-être 25 000, qui seraient exploités via des sites d'escorte. Il utilise une expression très forte, les « bordels de la République ».
Avec des soupçons d'inaction, voire de complicité?
C'est ce qui est suggéré, oui. Au sein même des structures d'accueil, éducateurs, veilleurs... Et cette culture du silence, cette omerta pour protéger l'institution, on la retrouverait ailleurs aussi.
Dans l'Église, par exemple?
Oui, l'Église, avec les chiffres terribles révélés ces dernières années. Des centaines de milliers de victimes depuis 1950. Mais aussi l'Éducation nationale, avec des affaires qui éclatent périodiquement. Et puis, il y a la question des lanceurs d'alerte.
Qui subissent des représailles?
C'est ce qui est rapporté. Le cas d'une médecin, Eugénie Izard, suspendue après avoir fait des signalements, est souvent citée comme exemple.
Une autre question qui revient souvent dans ces documents et qui est plus controversée, c'est celle des réseaux organisés.
Oui, c'est un point très sensible. Carl Zero mentionne des affaires connues, type Epstein, ou des histoires de cassettes, mais il insiste plutôt sur un déni généralisé face à l'ampleur du problème, plus que sur un complot mondial d'élite.
D'accord.
D'autres, comme Barnérias, semblent vouloir explorer davantage la piste de réseaux liés à des affaires comme Dutroux ou Outreau.
Et les critiques...
Des médias comme Marianne, par exemple, pointent du doigt un manque de preuves factuelles solides dans certains films pour étayer l'idée de vastes réseaux impliquant des personnalités. Et il y a aussi, bien sûr, la crainte que ces thèses soient récupérées par des mouvements extrémistes type QAnon.
C'est un risque réel.
Absolument. Cela dit, il faut rappeler que des réseaux pédocriminels organisés, ça existait et ça a été démantelé par la justice. En France, on a eu l'affaire d'Angers, Ado 71, et à l'étranger aussi. Donc la question n'est pas totalement hors sujet, mais elle demande beaucoup de prudence et de preuves.
Et au-delà des faits et des institutions, les sources explorent aussi les mécanismes psychologiques et même certaines idéologies qui pourraient jouer un rôle.
Oui, l'amnésie traumatique, on en a parlé, c'est central comme mécanisme de survie, mais aussi comme obstacle. Mais les critiques vont plus loin.
C'est-à-dire qui ?
Elles visent parfois l'influence de certaines lectures de la psychanalyse freudienne, le débat historique sur fantasmes contre traumas réels, ou des interprétations de propos attribués à Françoise Dolto sur le consentement de l'enfant, qui aurait pu historiquement minimiser la parole de la victime. Alice Miller a beaucoup critiqué ça. Et puis des théories plus récentes sont aussi mises en cause, comme le fameux et très controversé syndrome d'aliénation parentale, parfois utilisé dans des conflits de garde pour discréditer le parent qui protège l'enfant, ou encore certaines interprétations des droits sexuels des enfants, issues des travaux de Kinsey et reprises par l'OMS, qui suscitent aussi beaucoup de débats.
C'est un tableau vraiment sombre. Mais est-ce qu'il y a quand même des lueurs d'espoir ? Des mouvements de résistance ? Des pistes pour que ça change ?
Heureusement, oui. D'abord, il y a cette libération de la parole, c'est indéniable. Dans le sillage de MeToo, mais aussi grâce à des témoignages individuels très forts, comme ceux de Vanessa Springora, Camille Kouchner.
Ça a eu un impact énorme.
Énorme. Et puis, il y a des actions en justice qui tentent de nouvelles approches. L'avocat Michel Hama, par exemple, qui attaque directement des présidents de département pour faute lourde de l'ASE.
Ah oui.
Et on voit des parcours de combattants qui parfois aboutissent. La série de Barnérias met en avant le cas de ce père, Ziad Ali Haïdari, qui aurait réussi à récupérer ses enfants après 15 ans de lutte acharnée contre le système.
15 ans.
Oui. Et du coup, il y a un appel très fort à la mobilisation citoyenne. L'idée que le changement viendra d'en bas par la pression sur les politiques, surtout avant les élections. Et une proposition qui revient souvent.
Laquelle ?
Inverser la charge de la preuve. Faire en sorte que ce soit à l'accusé de prouver son innocence dans certaines situations pour mieux protéger l'enfant. C'est débattu, mais ça revient.
Donc pour résumer un peu cette exploration, on a une réalité qui est complexe, extrêmement douloureuse, marquée par des failles profondes dans nos systèmes de protection, et en face, un combat très dur pour les victimes et ceux qui les soutiennent.
C'est exactement ça. Et au fond, tous ces documents, au-delà des chiffres et des affaires spécifiques, ils nous posent une question fondamentale, je crois.
Oui.
Face à cette ampleur, à ce désastre décrit, et face au silence qui est si souvent dénoncé, quelle est notre part de responsabilité collective, en tant que société, dans la persistance de ce fléau ? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment, concrètement, pour que la protection de l'enfance devienne enfin la priorité absolue qu'elle devrait être ? Pas juste dans les mots, mais dans les actes.